Il a su qui est bon là, lui va partir d'elle-même. Est-ce qu'on est d'accord?
We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you.
You are the one.
Are you in here? Anyway, down to the thank you.
confortablement. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 30 minutes? On chante et le ciel s'éclaire. Très simple. Applaudissez très fort pour le ciel. Oui, DJ. Vérifiez mon micro, s'il vous plaît. Bien. Nous avons dit que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Israël dans le plan du salut de Dieu. Romains 9, au verset 6, dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Dans Romains 9 à 11, Paul aborde le problème de l'élection passée d'Israël et de son refus actuel d'accepter l'évangile et de son salut futur. Ces trois chapitres ont été écrits en réponse à la question des croyants juifs qui demandaient comment les promesses de Dieu faites à Abraham et à la nation d'Israël pourraient-elles rester valides jusqu'à ce que Israël, en tant que nation, semblait ne pas avoir part à l'évangile. L'enseignement d'aujourd'hui résume l'argument de Paul à ce sujet et contextualise la problématique par rapport à nous qui sommes le peuple d'Israël d'un point de vue spirituel. D'abord, dans l'ensemble, on pourrait dire que la discussion de Paul concernant le sort d'Israël dans le plan du salut de Dieu se compose de trois éléments. Le premier élément est dans Romains 9, le verset 6 à 29. Il est une analyse de la question passée d'Israël, de l'élection passée d'Israël. Dans Romains 9, de 6 à 9, Paul maintient que la promesse de Dieu faite à Israël n'a pas failli, car elle n'a jamais inclus que les fidèles de la nation. Elle ne s'adresse qu'au véritable Israël, à ceux qui étaient fidèles à la promesse. Lisez Romains 9, de 6 à 9, et lisez Genèse 12, de 1 à 3, ainsi que Genèse 17, au verset 19. Romains 9, de 6 à 9, Genèse 12, de 1 à 3, ainsi que Genèse 17, de verset 19.
Romains 9, de 6 à 9. Ce n'est point à dire la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesses qui sont regardées comme la prospérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen.
Amen. Qui est Israël? C'est qui? Jacob. Qui est le père de Jacob? Qui est le père d'Isaac? Mais pourquoi vous dites ça en hésitant? Ça serait évident. Les non-liseurs de la Bible, là, on vous reconnaît. Ils répondent en disant que peut-être que je me trompe. Israël a pour père
Isaac.
Bon, quel est le nom d'Israël? Parce qu'Israël, c'est le nom d'adoption. Quel est son premier nom? D'accord. Il avait un frère, son frère s'appelait comment? Hein? Et quoi? Et tout? C'est qui? C'est un doigt là? Esaü. Il disait Esau. Non, d'autres disent Esau. Vous lisez ça en doigt là? C'est Esaü. L'école est bien. Alors en fait, la promesse faite déjà depuis Abraham concerne sa descendance. Et dans sa descendance, vous avez Isaac. Isaac qui a pour enfant Jacob d'un côté et Esaü qui est l'aîné, qui a vendu son droit d'aînesse. Droit d'aînesse, hein, c'est français, pas droit de naissance. Vous voyez la différence. Non, je vous connais, je vous dis ça aujourd'hui. Droit d'aînesse, ça vient d'aîné. Voilà. Mais quand on va fouiller dans cette affaire, on se rend compte que de toute manière, Dieu avait déjà une préférence pour Jacob comparativement à son frère Esaü. Et c'est pourquoi il a glissé à sa mère le secret pour que la bénédiction descende sur Jacob et non sur son grand frère, qui à cause de la nourriture avait vendu son droit d'aînesse. Mais pas seulement la nourriture, quand on regarde le comportement des deux, on se rend compte que Jacob s'intéressait aux choses de son père alors que Esaü lui a dit. Il trouvait qu'on le dérangeait. La mère a aidé Jacob. Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que Esaü était très élu par rapport à Jacob. Au moment où le père Isaac était déjà bien Dieu, il fallait transmettre la bénédiction. Il a demandé qu'on lui prépare une bonne nourriture. Sa mère a combiné ça pendant que Esaü était allé chercher la viande et tout le reste pour préparer. Elle a fait porter à Jacob une tenue qui avait beaucoup de poils. Et Isaac a cru que c'était le fils aîné. Il a transmis la bénédiction à Jacob en lieu et place de Esaü. Quand Esaü est venu, c'était trop tard.
Mais il avait quand même douté de la voix.
Il avait fait quoi?
Il avait douté de la voix. De la voix de...
Oui, mais il a sorti. Et mais il a béni.
Oui, il a béni.
En tout cas, c'était ses enfants. Il s'est dit que peut-être qu'il a mal entendu. Il a donné la bénédiction. Donc, il y a cette affaire-là de la relation à Dieu depuis Abraham. Parce qu'il y a une promesse. D'ailleurs, on lui a un enseignement ici qui est exprimé dans le site internet. La promesse, l'alliance entre Abraham, Isaac, Jacob. On pourrait dire Abraham, Isaac et Israël. Israël est le nom spirituel de Jacob. Et quand on regarde cette affaire-là, on se pose quand même des questions. Quand on parle d'Israël, c'est qui? C'est la nation d'Israël aujourd'hui là. C'est la descendance d'Abraham génétique ou bien la descendance d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Vraiment, il faut voir clair dans cette affaire. Et dans certains vont dire que l'affaire de Jésus, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. D'abord, je vais m'amuser à faire un peu de science. D'un point de vue génétique, on ne peut pas dire. Je dis bien que d'un point de vue génétique, quand on va regarder qui est le père, d'un point de vue génétique, on ne peut pas établir que la nation d'Israël, c'est uniquement elle qui est la descendance d'Abraham. D'un point de vue génétique, ce n'est pas possible. Non, c'est bien plus que ça. Si on va remonter les gènes, on va les trouver un peu partout. Pourquoi? Et j'ai une info pour vous. Il est scientifiquement prouvé que les premiers juifs sont des noirs. Les premiers Hébreux sont des Noirs. Mais les premiers Indiens sont des Noirs. Les premiers Chinois sont des Noirs. Les premiers Européens sont des Noirs. Puisque le phénotype blanc n'existe que depuis 8000 ans. Depuis les travaux les plus récents. On croyait que les Blancs existaient depuis 40000 ans. Non, erreur. Ce sont les Noirs qui ont colonisé l'Europe. Les premiers habitants de la France, comme ils aiment parler fort là, ce sont des Africains Noirs. Ils sont surpris. Hein? Mais vous croyez que j'avais déjà dit ça ici? Ok, mise à jour. Le phénotype noir, parce que la race n'existe pas d'un point de vue scientifique. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Il y a des différences phénotypiques. Le phénotype noir est à la base du premier phénotype. C'est démontré par plusieurs scientifiques et contourné par tous les manipulateurs qui savent souvent réécrire l'histoire. Lorsque tu prends un noir, tu l'éloignes de l'équateur. Au fur et à mesure que tu observes sa descendance, le taux de mélanine change. La mélanine est la substance responsable de la peau noire. Le taux de kératine change. Bon, je voulais vous montrer mes cheveux, mais il n'y en a pas. C'est... Comme je me suis rasé au T0 là. Mais bon, vous en avez. C'est ça qui fait les cheveux durs, la kératine. Et le taux de vitamine D. Ces trois paramètres. Le taux de vitamine D, le taux de kératine, le taux de mélanine change. Au point où un noir, si tu l'éloignes de l'équateur, génération après génération, si seulement 10 000 ans, il peut fabriquer un blanc parfait. Juste en s'éloignant de l'équateur, la composition de l'air, l'altitude, etc., modifie les paramètres. Donc, la science est étudiée, la génétique a prouvé, je crois que ce sont des recherches de l'année dernière, que le blanc n'existe que depuis seulement 8000 ans. Même pas Karadila, 8000 ans. Et quand ce genre de découverte a lieu, on ne veut pas trop faire la pub dessus. Parce que ça dérange l'establishment. Les mensonges établis, tels que le blanchiment de Jésus-Christ, on lui a enlevé les yeux bleus et les yeux verts. Et les vraiment. Un noir. Donc, d'un point de vue génétique, on ne peut pas dire qu'Israël, c'est seulement le peuple, la nation d'Israël aujourd'hui. Parce que si on va regarder la descendance d'Abraham, ce n'est pas que cette nation-là. Quand on va voir les origines. D'un point de vue spirituel, nous avons établi que la descendance d'Abraham est celle qui est par alliance à Jésus-Christ. Mais il y a mieux, et cette nuance, cet enseignement permet d'avoir cette nuance. Israël, ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement tout le monde qui est Israël d'après Dieu. Celui qui est Israël, c'est celui qui met en pratique les préceptes de Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme étant le chemin, la vérité, la vie, comme étant la lumière du monde, comme étant le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. C'est pas que tu es d'Israël, tu dis qu'à Dieu se fait, c'est que moi je suis dans l'ancienne loi, je suis dans la Torah. Moi on attend encore le Messie. Oui, ils attendent encore le Messie. Jésus là c'était seulement un prophète comme ça, pour eux. Donc ils sont encore sous la loi, au lieu d'être sous la grâce et sous la foi. Problème. Mais il y a quelque chose là-dedans, c'est qu'il y a une promesse derrière, et nous allons régler ça petit à petit. Vous allez voir la fin des temps, une partie de la fin des temps, parce que c'est un enseignement très complexe qu'on va faire après, sur comment est-ce que Dieu a établi le plan pour le peuple d'Israël, pour sa propre gloire. En fait, on a déjà lu le 17-19 de Genèse.
Genèse 17, verset 19, il est écrit. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen.
Amen. Dieu fait une promesse à Abraham. Vous vous rappelez quand même de ce qui s'est passé. Quand on a dit que c'est Sarah qui va avoir l'enfant, elle a d'abord dit que la fleur là, même la saveur des choses là, j'ai perdu. C'est un vieux souvenir. Le père, il y a une esclave là-bas, va te reproduire de ce côté. Il ne faut pas perturber mon système. Je crois que ce n'est pas moi. Donc, vous connaissez l'histoire. D'un côté de la descendance qui est due à la promesse. Isaac est l'enfant de la promesse. Alors que Ismaël est l'enfant de quoi? De l'intelligence humaine. De la compréhension matérielle de l'homme qui s'est trompé sur la parole de Dieu et la promesse de Dieu. Mais bon, Abraham avait demandé, il avait intercédé pour son fils. Il a dit que je le bénis quand même, je lui donne l'argent, le bien, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas lui que vous voulez. C'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Il y a une promesse qui fait Isaac, c'est pourquoi. Isaac, il y a une descendance, Jacob, Jacob qui est Israël, et encore une autre promesse sur Israël. Bon, le désordre a commencé là-bas. Au lieu d'avoir un enfant, on a eu deux. Ça fait que la division a commencé là-bas, et puis ça a continué comme ça, comme ça, comme ça. Dans le monde spirituel, une petite faille comme ça crée des dégâts terribles quand tu regardes sur le long terme. Ceux qui ont l'habitude de faire l'optique savent ça. Une petite faille. Quand le faisceau entre, ça se répand. Plus la distance est grande, plus le faisceau s'élargit. Donc une faille coûte très cher sur le plan spirituel. Peut-être seulement un enfant, non. Mais derrière un enfant, il y a une nation. Il y a la descendance d'Ismaël. Il y a la descendance d'Isaac. Les deux descendants ont prospéré. Une descendance selon le plan de Dieu, l'autre selon la volonté humaine. Donc, il faut avoir conscience de cette complexité. Donc, quand Dieu te fait une promesse, je commence par dire que comment même. Comme j'ai vu une femme, elle n'est pas ici aujourd'hui. Elle est venue ici la première fois. Je lui ai dit que bon, ma fille, À ton âge, as-tu au moins 50 ans, mais c'est pas grave. Pour consolider ton foyer, il faut que tu aies un enfant. Puisqu'elle est dans une famille recomposée. Elle a un enfant qu'elle a amené dans le foyer. Son mari a deux enfants qu'il a amenés dans le foyer. Et eux deux, ils n'avaient pas d'enfants. C'est là où la pierre tue le chef bandit. Donc dès qu'elle arrive, je la regarde. Le diable lui a tout volé. Elle a travaillé dans de grandes organisations, etc. Il lui a tout pris. Et pendant qu'elle est en train de couler à pic, une de ses collègues, les deux sont de hauts fonctionnaires ici au Cameroun. Une de ses collègues qui avait déjà eu la grâce d'être délivrée par mes mains, lui dit que va voir le docteur Songa. Elle vient, regarde un petit gars. Non, je sais que, et quand il regarde moi, un petit gars, même là-bas, quand il me regarde à l'internet, il regarde un petit gars. Mais là, j'ai un petit gars qui était en Bermuda. Il m'a trouvé là en bambouche. Il avait les petits t-shirts. Bon, elle regarde le petit gars, elle le petit t-shirt. Elle dit seulement dans son cœur que vraiment, c'est parce qu'on m'a envoyé. Elle a garé une grosse voiture. Et bon, le gars qui se balade en babouche. Je m'assois, bonsoir ma fille. D'abord, elle est surprise que moi, je l'appelle ma fille. Elle m'a appelé monsieur et docteur pendant longtemps, jusqu'à ce que les miracles commencent à la gifler. Donc, alors, je lui dis en la regardant comme ça, l'année prochaine, à cette date, tu auras un enfant et ce sera un garçon. Elle dit aussi amen pour la forme, mais dans, mentalement, elle dit que vraiment, les gens assis. Mais je lui dis avant, je veux voir ton mari, je dois vous traiter vous deux. Les deux arrivent. Le mari sceptique comme un bon scientifique. Je commence à leur parler de leurs problèmes de foyer. Les deux me regardent comme ça, que c'est comment. Ils dorment avec nous ou quoi. Je leur sors leur dossier, step by step. Je sors les dossiers, Jusqu'à sortir les dossiers de la famille du mari. Le mari commence à être secoué, que là, ça commence à être quand même compliqué. Ces petits gars que je vois souvent à la télé, là. Alors, avec sa rationalité, elle s'est dit que de toute façon, oui, elle est en train de guérir, elle voit des choses se passer, elle rajeunit, et puis elle a même une nomination. Beaucoup de choses ont avancé, mais l'autre là, quand l'enfant lui a dit qu'elle va accoucher à cette date, elle a tout est déjà. Elle travaille le travail qu'il faut travailler à la maison, elle ne sait pas que Dieu lui suit ses plans. Un jour, elle commence à sentir le corps bizarre, elle s'en va faire les tests de grossesse. Elle a vraiment failli tomber à la renverse. Elle appelle d'abord sa petite comme ma fille. À mon âge, si. Imaginez ce qui est arrivé à Sarah. À l'âge que Sarah avait. Quand ils disent que l'année prochaine, tu vas accoucher. Elle a d'abord vu dans son cœur. D'abord, le père même ne fonctionne plus très bien. Moi, elle me l'a dit comme ça, il n'y a plus. Comment moi, je peux. Et elle s'en va, et Dieu revient à son mari, pourquoi Sarah rit dans son cœur là-bas? Quand j'ai dit que l'année prochaine, alors qu'elle ne savait pas que Dieu quoi. Il a refait tout là-bas, elle était nyanga neuve comme un enfant de 20 ans. Et ça a donné subitement. À 90 ans, tout était déjà reprogrammé. Je dis ça parce qu'il y a certains qui ne veulent pas faire les témoignages ici. J'ai vu beaucoup de femmes dont les seins se sont redressés. Et quelques-unes qui ont le courage de me dire que le programme est efficace, hein? Mais c'est comme s'il n'y a plus d'enfants. Ça fait remonter un canard comme les saguets. En fait, quand vous avez la grâce que Dieu vous fait une promesse, il met toutes les dispositions, tout, en place, de la dimension spirituelle à la dimension matérielle, pour que sa promesse s'accomplisse. Vous n'avez pas à douter. Mais vous demandez que vous voyez, ça va se passer comment? Le comment lui appartient. Donc on a cette gestion de la descendance de Jacob que Dieu a baptisé au nom d'Israël. Et nous sommes les descendants donc, de Jacob, d'Israël, par alliance à Jésus-Christ. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham qui est le père de la foi. Il y a donc cette dimension qu'il faut comprendre et qui est vraiment inquiétante. Ce qu'on appelle Israël, à proprement parler, ils sont très nombreux à avoir rejeté Christ. Ils disent que ce n'est pas le Sauveur, ce n'est pas le Messie. C'est un problème d'actualité. Ce n'est pas une affaire qui était seulement à l'époque de Paul. Aujourd'hui, mais ils sont combien à être chrétiens? Mais si vous cherchez les statistiques, vous allez voir qu'une bonne partie du peuple d'Israël d'aujourd'hui a rejeté Jésus-Christ comme Sauveur. Ils disent que ce n'est pas lui, non, on tient la table. Il y en a qui ont la Torah, d'autres qui sont musulmans. Si tu veux énerver un musulman, dis-lui que Dieu a enfanté quelqu'un. Dieu ne peut avoir d'enfant d'après un musulman. Il en est souvent qui lit ça. Si Dieu a un enfant, ce n'est plus Dieu. Donc, Jésus-Christ, oui, il a existé. Il ne dit pas que Jésus-Christ n'a pas existé. Issa. Il appelle Issa, le Christ. Issa a existé, mais c'était seulement un grand prophète. Et si vous voulez voir beaucoup de louanges sur la mère de Issa, Mariam, ou Mariam, ça dépend des interprétations, c'est dans le Coran. Le Coran parle beaucoup de Marie, en bien, beaucoup, beaucoup plus même que la Bible. Donc il y a ce problème d'acceptation de Jésus comme étant le Sauveur, comme étant le Seigneur, le chemin, la vérité, la vie, le représentant de Dieu, le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. C'est cette question qu'on est en train de regarder, mais qui va avoir un impact sur tous ceux qui sont autour, tous ceux qui ont entendu la parole sur Jésus-Christ. Parce que certains viennent être greffés à l'arbre initial que le Seigneur a établi et ils se disent qu'ils sont arrivés. Non, on n'est pas arrivé. Il faut maintenir les acquis. Il y a le peuple d'Israël génétique. Il y a le peuple d'Israël non génétique qui l'est par alliance spirituelle. Et il y a le peuple d'Israël génétique qui lui a un problème avec ce que la promesse a lui a donné. Qui ne reconnaissent pas le Père, qui ne reconnaissent pas l'envoyé. Jésus-Christ était un envoyé. Donc j'ai compartimenté dans ces trois dimensions pour que vous soyez à l'aise et que l'on continue l'enseignement sur la base d'une compréhension commune de Israël dont nous sommes en train de parler. Donc, pour avoir les trois dimensions d'Israël, Israël de la biologie génétique, Israël de la dimension spirituelle et Israël génétique qui refuse Jésus-Christ, les trois dimensions. Donc, il y a la première partie qui accepte Jésus-Christ, l'autre qui est par alliance, la troisième partie qui est génétique, mais refuse et n'est donc pas du Christ. Alors, pour évoluer, dans Romains 9, le verset 14 à 29, Paul fait remarquer que Dieu a le droit de faire ce qui lui plaît des individus et des nations. Il a le droit de rejeter le peuple d'Israël si ce dernier lui désobéit. Il a le droit de se montrer miséricordieux envers les gentils et de leur offrir le salut s'il le désire. On va appeler ici les gentils ceux qui sont de Christ mais qui ne sont pas génétiquement d'Israël. Vous comprenez la... Il y a le peuple d'Israël, d'un point de vue génétique, et il y a ceux qui sont les gentils, ceux qui sont... Ah, j'ai envie de vous montrer ça comme ça. Il y a l'aîné de Dieu, et il y a l'aîné de nouveau. Le dernier ouvrage explique ça. Le né de Dieu est un élu, c'est un loin. Génétiquement, d'un point de vue spirituel, Dieu l'a établi dans son sein, comme lui appartenant. Alors que le né de nouveau... C'est celui qui, même s'il n'est pas un loin, peut quand même entrer dans la maison et être adopté normalement. Mais il n'a pas les mêmes prérequis, les mêmes dispositions génétiques d'un point de vue spirituel que le né de Dieu. Et les oies ont une particularité, c'est que leur croissance peut aller très très vite, dès le moment où ils s'alignent. Parce que c'est leur gène. Si vous nourrissez un éléphant, bien. Il ne va pas grandir de la même manière que quand vous nourrissez un lion ou bien vous nourrissez un chacal, etc. Ils ont des gènes qui font qu'ils ont des tailles différentes et c'est en quelques semaines seulement vous commencez à avoir une différence. Sur quelques mois, c'est grave. C'est la même chose. Un loin qui a compris le principe et qui s'aligne dans la marche avec Dieu, il a des grâces spéciales par rapport au fait que ses gènes le prédisposent à aller loin. Il jouit de ces privilèges-là. Mais quand vous ne comprenez pas ça, vous tournez en rond pour rien. Quand vous venez là à déranger les gens avec votre volonté, alors qu'il s'agit surtout de se préoccuper, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Beaucoup d'ouins ignorent qu'ils sont des ouins. Par exemple, une problématique sérieuse par rapport à cette question d'Israël. Beaucoup d'hommes ignorent qu'ils sont des hommes. Beaucoup de ceux qui sont d'Israël ne le savent même pas. Parce qu'ils n'ont pas fourni suffisamment d'efforts. Ils sont noyés dans la médiocrité traditionnelle de la marche avec Dieu imaginaire. Quand par exemple quelqu'un m'a énervé hier. Vraiment, docteur, je suis né de nouveau depuis 9 ans. Mais vraiment, rien ne marche. Ça m'a énervé. Quel né de nouveau? Où? Comment ça? Si vous voulez, je vous donne la liste des pasteurs qui sont dans que je ne veux pas la liste là. Laisse-moi ça. Je ne veux pas. Tu ne peux pas être de Dieu. Et le diable joue au ballon avec toi. Ce n'est pas Dieu. Cessez de vous habituer au Dieu impuissant, au Dieu incapable, au Dieu inerte, au Dieu incompétent. Ce n'est pas Dieu. 9 ans, né de nouveau, tout est bloqué. Où ? Ton nez de nouveau là, c'est dans ton imagination. On t'a menti, on t'a trompé. Sors de là. Ceux qui sont de la descendance d'Israël vivent la relation avec leur père. Parce qu'il y a une promesse. Et quand Dieu promet, il accomplit.
Amen.
Quels sont ces gens qui sont nés de nouveau? Ne dites même plus ça. Si vous êtes dans la galère et vous êtes nés de nouveau, ne dites plus jamais ça à personne. On vous a menti. Vraiment. Ça fait 9 ans que je cherche mon mariage. Quand je vous réussis, ça fait gâter. Dieu n'était pas dans le secteur là. Et ils ont toujours cette habitude-là. J'aime vous parler, ça ne suffit pas, on va beaucoup parler. Ils sont toujours en train de venir vers Dieu comme si Dieu était un marabout. Introduction. Je voulais seulement que vous priez pour moi, hein, pour savoir si le mari que j'ai là, c'est ma part. Donc, tu as réglé les préliminaires pour commencer à sortir l'autre là. Mais vous devez mettre la charrue avant les bœufs. Ceux qui sont d'Israël, comme nous, qui avons eu tous la grâce de vivre les miracles, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, de vivre son amour, nous savons que quand il a fait une promesse, elle s'accomplit. On vit ça. J'ai un de mes fils, j'ai ri quand il causait avec lui, je riais dans mon cœur. Il était en train de causer avec une autre personne qui est née de nouveau depuis 4 ans. Mais dans une galère profonde. Et ça va toujours de mal en pis. Rien ne s'arrange. Même l'étincelle ne sort pas de sa bouche. Quand elle dit Jésus-Christ. Quand elle dit Jésus-Christ, c'est démon, j'y s'en va. Je parlais de Jésus-Christ, pas c'est qui. Mais, à l'époque de Paul et Pierre, il y avait des gens là qui voulaient aussi faire les délivrances. Non? Quand ils ont dit au nom, démon a dit que Jésus-Christ, on connaît, toi, on ne te connaît pas. Ils les ont rappelés correctement. Ils les ont fouettés correctement. Qu'elle ne dit plus jamais Jésus-Christ. Tu n'as pas l'autorité là. Lorsque vous êtes du peuple d'Israël, vous devez savoir que vous avez votre père qui a déjà fait une promesse et il veille sur sa parole. Vous comprenez ce que je dis là? Il veille sur sa parole. Habituez-vous au Dieu qui veille sur sa parole. Faites votre part, c'est tout. Obéissance, apprentissage, louange, adoration, prière. Offrande, dîme, semence, avec le bon cœur, cœur tourné vers Dieu. Ne le dérangez pas, être ignorant. Vous dérangez même tout le monde avec les faux nœuds de nouveau. Vous m'entendez souvent utiliser l'expression l'année de nouveau ici. On fait quoi avec ça? Déclarer ça, ça ne sert à rien. Il faut vivre ça. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de déclarer, il faut vivre. Tu enseignes quelque chose à quelqu'un? On va baptiser, hein? C'est une menace. On t'a baptisé et puis quoi? Nous, on veut la preuve matérielle qu'on t'a baptisé. On veut les faits. Tu dois incarner le fait que tu aies été baptisé. C'est pas que tu effraies les gens avec. Nathalie, ça va? Oui, je suis né de nouveau. Fais attention, hein, moi. C'est un argument. Vous êtes habitué à l'ignorance et à la médiocrité. Et vous dérangez les gens avec ça. Mais si tu es né de nouveau, dès que tu es né de nouveau, ton père Satan, ta mère Satan, tes frères Satan, tes soeurs Satan, tes tantes Satan. Et puis, quand tu as fini les qualifiés de Satan, en quoi ça améliore ta relation avec ton père, ta mère, avec Dieu lui-même? Ça résout même quel problème?
Ton mari de nuit augmentait même le nombre d'enfants avec toi. Ah, je suis tombé sur une femme hier qui me disait que. Vraiment. Parce que son mari et elle sont devenus comme deux bons. Non, deux mauvais frères dans une même maison. Le diable est venu bien que ça soit à terre. Dans la famille là. T'es là, ton mari, tu le détestes. Vous avez un problème? Non. Ta femme, tu la détestes, vous avez un problème? Non. Il faut que le diable est en train de travailler. Le mari a sa femme de nuit. La femme a son mari de nuit. Il est né de nouveau. Tu as les couches de jour, tu as les couches de nuit. En journée, dès que tu sors, le petit réagent. La nuit, alors, c'est un aller-retour. Dans toutes les versions. Il y a même les mi-temps. Tu es né de nouveau. Tu as mal à l'estomac, on ne trouve pas de quoi tu souffres. Le bas du dos fait mal en permanence. Quand tu te lèves, tu prends les larmes.
Aidez-moi les enfants.
Ça prend encore 40 ans, le dos est cassé. Cessez de vivre dans l'illusion d'une relation à Dieu qui n'a pas de contenu. Ce n'est pas Dieu. La descendance d'Israël vit cette relation. C'est une relation. Elle est vivante. Il y a dedans le Père qui veille sur ses enfants et les enfants qui veillent à ce que la parole du Père soit appliquée. Et il y a une récompense systématique par rapport à cela.
Faut cesser de nous fatiguer. Il y a d'autres là, ils ont la formule, je prie beaucoup. Et puis quoi? Regarde-toi, tu as un voile sur la tête, on t'a attaché comme le mignon d'or. Tu pries beaucoup, ça va pas détacher les chaînes que tu as au pied là. Les liens qu'on a installés dans ta tête, les fourmis qui sont sur la tête. Le cancer est programmé dans tes deux seins. Tu crois que tu as les seins? Il arrive là-bas.
Quand tu manges, il y a un serpent qui avale le reste. Tu ne comprends pas pourquoi tu maigris, pourquoi tu manges beaucoup. Il faut cesser de dire des choses comme ça. Vraiment. Les nez de nouveau là, laissez les gens tranquilles. Allez réfléchir bien sur l'endroit où vous êtes. Est-ce que votre relation avec Dieu est bonne? Parce que l'histoire de nez de nouveau, c'est les affaires d'Israël justement. Tu es de nouveau, c'est-à-dire que tu as été adopté comme enfant du peuple d'Israël par alliance à Jésus-Christ. Tu es d'Israël. Mais ton nez de nouveau là, on ne voit pas le contenu. Tu déranges les gens. Tu n'as jamais aucune promotion. Tu vieillis de façon accélérée. Tout ce que tu essayes ne marche pas. Ici à l'Ouest Cameroun, c'est grave. Je dis ça à tous les gens de l'Ouest qui se baladent à travers le monde et qui sont en train d'écouter. Il y a chez vous ce qu'on appelle une tradition. Je vais trouver le mot le plus représentatif. Une tradition qui entretient chaleureusement l'industrie du famla. Le famla chez vous est une industrie. Vos sottises qu'on appelle culte de crâne là, on vous dédicace aux morts. Il faut que quelqu'un vous dise ça. C'est ce que servent, à quoi servent les cultes de crâne? C'est les dédicaces des enfants, génération après génération, aux morts. Il faut arrêter ça. Et ne venez pas chercher Dieu ayant été dédicacé aux morts. Vous ne trouvez pas ça normal, anormal que vous ne rêviez pas. Et quand vous rêvez, vous êtes au milieu des morts. Vous croyez que c'est quoi? C'est la philo? Ou bien c'est votre imagination? Vous êtes au milieu des morts. C'est la tradition, non? Pas. C'est la tradition. Il y a une mère qui a dit, Dieu n'est pas sur ça, pas. Arrêtez ça. Cette tradition est satanique. N'allez pas demander à quelqu'un d'autre. Je vous dis, en ma qualité de représentant de Dieu sur terre, que c'est le diable. C'est une industrie. Du famla, de la captivité. On vous vend génération après génération. Comment vous ne comprenez pas?